Allez, pour ce lundi de Pâques, pas de répit. Nous sommes là pour vous accompagner donc pendant une heure avec un sommaire incroyable. Deux équipes de films qui vont être là aujourd'hui. On va commencer dans un instant tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné, Le Prix du Passage, Thierry Binisti. Le réalisateur accompagné de Adam Bessa et de Alice Izaz vont être avec nous pour en parler. Coup de cœur télé consacré à Léo Mattei. On fête les 10 ans de la série avec Stomy Bugsy qui sera notre invité exceptionnel aujourd'hui. Et puis on aura le plaisir également de recevoir les triplés de la série. Je te promets, Mathilde Abdelkader, Axel Narodeski et Dembo Camelo seront nos invités exceptionnels. Et puis en fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné consacré au film Une histoire d'amour, adaptation de la pièce éponyme d'Alexis Michalik. Justement, eh bien Alexis Michalik sera là avec Pauline Bression, Léontine Doncieux et également Juliette Delacroix et Marie Cassoyer, une équipe incroyable, un film incroyable également. Deux coups de cœur ciné magnifiques cette semaine dont on va vous parler. Alors on démarre tout de suite avec le premier. Dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré au film Le Prix du Passage qui sort en salle. Un film qu'on a eu la chance de voir il y a maintenant quelques mois, notamment au festival d'Angoulême. Et on a justement toute une partie de l'équipe qui va nous rejoindre aujourd'hui. Adam Bessa, Alice Izaz et le réalisateur Thierry Binisti qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Thierry.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On a été particulièrement ému sur ce film, Thierry. On se connaît bien et on a retrouvé non seulement toute la sensibilité de toi réalisateur et sur une très très belle histoire qui parle effectivement des migrants. On est dans un sujet de société très très fort. Qui a eu l'idée ?
Alors l'idée originale est de Sophie Guédon qui a donc écrit le premier synopsis et puis après on a travaillé effectivement au scénario pour mettre en place cette histoire assez singulière qui se passe dans le nord de la France et qui raconte la rencontre absolument improbable entre une habitante du nord et puis une population de migrants, et c'est un petit peu le chemin qu'ils vont être capables de construire ensemble.
Natacha, un fils Enzo, et Natacha se retrouve effectivement en galère, elle perd son travail. Et puis Walid, lui, il est migrant et irakien et se retrouve à vouloir passer en Angleterre, hein, comme tous les autres. Et ils vont s'allier pour tenter de faire un petit peu d'argent, pour essayer de se sortir de la misère dans laquelle ils sont, l'un et l'autre, pour le coup, en attendant que Walid puisse passer en Angleterre. Et jusqu'au jour, évidemment, où il y en a qui vont pas du tout aimer ce business. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Ah oui, c'est tout à fait bien résumé, puisque c'est effectivement la rencontre de deux précarités. C'est comment deux personnes dans un besoin extrême peuvent s'allier. C'est la façon dont on peut devenir plus fort à un moment dans sa vie en rencontrant une autre personne avec qui on peut tisser un vrai lien.
Et moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment ce lien qui se tisse au fur et à mesure entre ces deux personnages. On part pas dans les clichés de l'histoire d'amour qui se rencontre, etc. On est vraiment là sur une histoire humaine avant tout. C'est ça que j'ai aimé avant tout. Et Adam Bessa qui nous rejoint justement. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aussi. Thierry, c'est ça ?
Oui, c'est ça, puisque en fait, le principe même du film, de ce qu'on a voulu faire, c'est montrer comment deux individus, à partir du moment où ils se rencontrent, où ils vont échanger, ils vont découvrir en fait ce qu'ils ont en commun. Et effectivement, Walid et Natacha n'avaient a priori rien en commun, sauf qu'à partir du moment où la parole se met en route, ils arrivent à découvrir ce qui les rassemble, ce qui peut les unir et leur rêve commun à tous les deux.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans cette histoire, Adam ?
Ce que vient de dire Thierry, c'est assez juste, hein, je trouve ça très beau même, carrément la même chose.
Raconter avec Alice aussi ?
Ouais, carrément, c'est super bien passé. Je trouve que vraiment la belle chose de ce film, c'est ça en fait, c'est ces deux mondes qui ont un peu rien à voir, c'est ces deux vies qui ont en fait rien à voir, ces deux formes de pauvreté aussi. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant, le fait qu'en fait on compare deux pauvretés en fait et il n'y en a pas une qui est pire que l'autre. Enfin, finalement, tu peux te poser la question. En fait, y a cette empathie avec la mère et ensuite tu ouvres sur un autre schéma de vie. Et je trouve que ça pousse à des bonnes questions dans ta tête, à vraiment te poser sur ta place finalement d'être humain là dans ce monde. Et c'est intéressant. Et comme il a dit, en fait, d'ensuite pour avoir une idée de rassembler à la fin, je trouve ça assez fort et assez intéressant justement de montrer tous les points communs et finalement que les besoins sont finalement les mêmes pour tous les êtres vivants, quoi. La dignité, la liberté, l'envie de s'épanouir, ça c'est commun, quoi, à tout le monde.
Alors, sur une histoire comme ça, évidemment, pour qu'elle soit le plus réelle possible et qu'elle soit qu'on soit vraiment baigné dedans, il fallait tourner sur place. Le tournage s'est déroulé dans le Nord, hein, évidemment, Calais à Sangatte, je crois, hein, précisément. Est-ce que vous avez pu échanger justement avec avec les migrants sur cette histoire que vous étiez en train de raconter aussi? Est-ce que vous avez pu discuter avec certains d'entre eux, l'un et l'autre?
Alors moi, j'ai fait un gros travail d'immersion avant le tournage parce qu'effectivement, ce genre de film mérite de rendre une véritable justesse de la réalité, et du coup pour garder cette optique, j'ai passé beaucoup de temps avec des associations dans des camps de migrants au quotidien à les suivre, à travailler dans les rencontres aussi bien de distribution de nourriture, de distribution de vêtements, mais aussi des cours qu'ils donnent aux différents migrants, et c'est ce qui donne au film, je crois, cet aspect réel qui était vraiment nécessaire. On raconte une histoire qui est de la pure fiction mais qui s'inscrit complètement dans un cadre réel, parce que la force du cinéma, c'est aussi de donner, grâce au temps d'un film, cette sensation de pénétrer un monde, et voilà, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette histoire.
Toi, Adam, t'as pu justement aussi échanger, discuter pendant ce tournage avec des vrais migrants?
Moi, j'avais contacté un ami à moi qui était kurde, que je connaissais et qui avait passé du temps un peu dans les foyers, et je lui avais demandé de me mettre en contact avec une personne qui avait passé au moins un an ou deux ans. Et du coup, il m'a mis en contact avec lui. Il était parti de la jungle, il avait été régularisé en France, il avait réussi à avoir ses papiers, et du coup, il avait une vie plus ou moins normale, mais en tout cas, il avait vécu dans la jungle et il avait l'envie de partir. Finalement, ça s'est bien goupillé pour lui. Et du coup, on a fait deux entretiens comme ça, à peu près deux heures au téléphone, où je l'ai enregistré. J'ai écouté son histoire, je l'ai enregistré, j'ai pas pris beaucoup de son temps, deux fois deux heures. Et en fait, j'ai enregistré tous nos échanges. Et de là, en fait, j'ai écouté son accent, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'idée de un an en France. Comment tu sonnes? Ton accent, il est dans quel état, en fait? Et la justesse de son français, en fait. Le niveau de son français, je m'en rendais pas compte pour un anglophone, parce que c'est des arabo-anglophones, ils sont pas du tout francophones. Donc j'arrivais pas à me rendre compte un an ce que c'était, quoi.
Ouais. Bon, en tout cas, il y a vraiment un très beau message dans ce film, un film d'une humanité absolument incroyable. On va juste finir par la scène qui vous a peut-être marqué le plus.
Moi, je crois que ma scène préférée, ça a été la scène de la négociation avec Alice, là.
65-35.
65-35, celle-là. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle arrive à un joli moment du film où, en fait, c'est un peu la première scène qui crée leur lien. Parce qu'en fait, jusque-là, il venait pour la douche et tout ça. Puis là, il vient, en fait, le soir, chez elle. Quand même, il y a une forme d'intimité. Il rentre et son enfant. Et puis, on sent qu'elle est assez à l'aise. Il y a l'anniversaire qui vient de se passer. Ça va un peu mieux pour elle. C'est un peu ce petit moment où ça va un peu mieux. Et je trouve que, je sais pas, alors là il y a un peu un cap qui se passe. Je trouve que justement là où ça, à chaque fois, elle dans sa vie, ça part en live, ou même lui à chaque fois quand il se fait virer au début, à chaque fois ça part en live. Et là, en fait, ils commencent à se, vu qu'ils ont des tempéraments tous les deux où ils sont à cran, en fait les deux personnages sont à cran, et du coup c'est le moment où ils sentent que l'autre n'est pas là pour l'agresser. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que quand elle lui dit non mais c'est bon, vas-y Walid, reviens, moi c'est comme ça que je me souviens, quand je me suis dit ah c'est, ça c'est cool à jouer, parce que c'est le moment en fait où il dit bon, finalement, on crie un peu parce qu'on est un peu énervé, on est à cran, mais on comprend bien que l'un et l'autre, on a plus à se donner qu'à se, tu vois. Ça. Et je trouvais que ça, c'était cool à jouer, parce que c'était pas dit, c'était pas écrit, c'était vraiment un petit truc en dessous qui était. Et du coup, j'ai des bons souvenirs de l'avoir refait plein de fois, et c'était pas désagréable de la, tu vois. Ça, c'était à chaque fois agréable de la rejouer, parce qu'on faisait des trucs différents.
Prix du passage, le film à ne pas rater. Alice Izaz va nous rejoindre dans un instant. On va écouter la bande-annonce. Justement, ce film est à ne pas rater. C'est mercredi au cinéma. Merci Thierry, merci Adam.
Alors j'imagine que tu veux passer comme tous les autres en Angleterre.
C'est cher le passage, 5000 euros.
5000? Tu vas retrouver un travail.
J'ai bien réfléchi là à cette histoire de passage. Je vous fais passer, toi et ton pote, pour 2000 euros.
Moi je peux pas, j'attends mon frère. Comment tu vas faire?
Planquer un type dans son coffre et traverser la Manche, ça va, hein. J'ai connu plus difficile, hein.
La télé, le talk show radio.
le coup de cœur ciné de la semaine.
Et voilà, de retour, elle est avec nous, chose promise, chose due, Alice Izaz est là. Bonjour Alice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Chut, on écoute la télé. On le disait il y a quelques instants, c'est un vrai coup de cœur, Le Prix du Passage. C'est un film qui nous a beaucoup ému au festival d'Angoulême, où c'était la première projection. Alors, je vais poser la question en dernier, justement, à Adam et Thierry. Je vais te la poser à toi en premier. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, de cette projection de fou. C'était une première et une standing ovation qui a duré, mais un quart d'heure. Je t'ai senti super ému. J'étais là à ce moment-là et on a capté ce moment. C'était assez incroyable ce qui s'est passé. La magie a vraiment opéré avec le public.
C'est vrai que j'ai été, je dirais pas étonnamment surprise, parce que ça voudrait dire que je m'attendais à ce que le film ne marche pas, mais en fait, comme c'est un film, moi je l'avais vu, je l'ai vu en projo équipe, et là c'est la première fois que je le voyais en projection du coup devant un public, et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas comment les gens allaient le recevoir, je savais pas s'ils allaient sortir un peu plombés entre guillemets, si enfin c'est un film qui peut un peu sonner aussi, donc souvent quand les gens sortent d'un film, ils mettent du temps un peu à récupérer, donc on ne sait pas trop comment ils vont réagir, et là c'est vrai que j'ai été super heureuse en fait de voir à quel point le film a été bien accueilli. J'ai senti beaucoup beaucoup de sincérité chez les gens en fait, enfin ils nous ont applaudi pendant très longtemps, et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, surtout quand c'est une première projection et qu'on se dit pourvu que ça donne le là pour la suite, pourvu que ce soit un indicateur du succès de ce film plus tard dans les salles, et donc ouais, ça fait du bien, ça fait du bien.
Alors moi ce que j'aimerais, c'est que tu nous définisses, toi, de ta vision à toi, Alice, Natacha.
Alors Natacha, c'est une jeune mère célibataire qui est en galère de thunes, qui accumule les petits jobs pour pouvoir subvenir aux besoins, à ses besoins et à ceux de son fils, surtout, c'est sa priorité. Natacha, c'est quelqu'un qui est assez, qui vit dans le nord de la France, on peut le dire, donc à Boulogne-sur-Mer, et qui est assez hostile aux migrants, qui est même indifférente, et qui va rencontrer l'un d'entre eux, donc Walid, interprété par Adam Bessa. Elle va dans un premier temps un peu voir l'appât du gain dans leur rencontre, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle peut faire des passages clandestins et qu'elle peut gagner ainsi pas mal d'argent et régler ses dettes. Et donc elle va le faire une fois, puis deux fois, puis trois fois, quand elle va comprendre que ça se passe bien et qu'elle en est capable. Mais à leur contact, au contact des autres migrants, elle va se rendre compte en réalité de la difficulté que ces gens-là traversent, d'où ils viennent. Enfin, elle va s'apercevoir qu'elle s'est trompée en réalité. Et elle va finir par carrément vouloir les aider. C'est ça que j'ai aimé moi dans le personnage de Natacha, c'est que c'est pas une gentille, c'est pas une méchante, c'est pas, elle est pas morale, elle est pas immorale, en fait elle est juste humaine. Je trouve qu'elle a une super belle trajectoire, je la trouve touchante, je trouve qu'elle est hyper forte, je trouve qu'à la fois elle a un côté un peu fragile. Ce qui m'a plu aussi, enfin je pense que je réponds à plusieurs questions en une en fait, parce que du coup je développe, je suis en train d'étirer le film, mais ce qui m'a plu, c'est la rencontre entre Natacha et Walid. C'est la rencontre entre finalement ces deux solitudes, ces deux personnages qui rêvent d'un ailleurs et qui vont en fait se sauver un peu mutuellement.
Voilà. C'est vraiment un sujet, moi, que j'ai trouvé qui avait été traité d'une finesse incroyable.
Complètement d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est une belle ode à la vie, en fait. C'est de se dire, dans la vie, n'aurait jamais été amené à se rencontrer, en fait, en temps normal. Enfin, s'ils se croisaient, ils seraient jamais venus se voir, ils se seraient jamais adressé la parole. Le destin les fait se rencontrer. Et je trouve ça magnifique, en fait, cette histoire, justement, ouais, d'amitié, d'amour. En fait, on ne sait pas. C'est deux humains qui se rencontrent et qui finissent par s'aimer. Alors qu'au départ, je pense que elle est hostile à ce mec-là quand il débarque dans son bar pour la première fois. Elle a des a priori. Lui, de la même façon, il a des a priori sur elle. Et je trouve que c'est assez beau sur ce que ça raconte. Et moi, je trouve que dans notre monde, justement, il y a beaucoup d'a priori. Je trouve qu'on fait plus trop l'effort d'aller voir des gens, d'aller se renseigner sur leur vie. Enfin, on le fait jamais d'ailleurs. Et je trouve ça assez triste, et je trouve que justement dans ce film là, moi ça me donne envie de le faire. Bravo à tous ceux qui s'investissent à fond dans les associations, etc., dans le Nord, et qui vont justement en contact de ces gens là qui traversent des choses super difficiles, et qui vont et qui se renseignent et qui parlent avec eux, et ça, franchement, chapeau.
T'as pu aller échanger justement avec certains d'entre eux, avec certains migrants là-bas?
Oui, parce que dans les figurants, il y a eu énormément de vrais migrants, donc on a pu parler avec certains d'entre eux. Et moi, j'ai eu des coups de cœur pour certains d'entre eux, notamment Habib, qui fait partie des méchants, donc qui était là, en fait, quasiment présent sur tout le tournage, qui est afghan. Son histoire est folle, parce que justement, lui, il voulait aller en Angleterre, et en réalité, quand il est arrivé à Boulogne-sur-Mer, bah, il s'est dit, bah, en fait, non, je kiffe trop cet endroit.
Donc, il a bien ici.
Ouais, du coup, il a décidé de rester ici. Et maintenant, il est livreur là-bas, il est trop heureux, il a sa vie là-bas. Enfin, il est trop heureux. Bah, tout est relatif parce qu'il a sa femme encore en Afghanistan, donc c'est compliqué, très compliqué même. Mais en attendant, bah, il a trouvé un nouveau souffle,
une nouvelle vie.
Voilà, exactement. Donc oui, on a pu en rencontrer pas mal et c'était très enrichissant.
Alice, un mot sur une belle course, puisque le film est sorti depuis septembre dernier, donc il va s'offrir maintenant en VOD et en DVD, justement, au moment de la sortie du prix du passage, et bien c'est l'occasion de pouvoir aussi retrouver Alice dans Une belle course, un nouveau film de Christian Carion, où tu incarnes Lynn Renault, jeune.
Pour moi, c'était génial ce film déjà, parce que je retrouvais Christian, avec qui j'ai déjà tourné, donc j'étais très émue qu'il me propose à nouveau de travailler avec lui, et j'ai été aussi particulièrement émue de pouvoir interpréter le même personnage que Lynn Renault, jeune. Lynn, pour moi, c'est un monument, quoi, dans nos vies. Enfin, je veux dire, c'est vrai, on a l'impression que c'est une légende, même. Non, mais on se dit, est-ce qu'elle existe vraiment? Elle est incroyable, cette femme.
Elle a tellement l'œil rieur, taquin encore.
Et je me dis, ouais, non, c'est formidable d'avoir eu cette chance, en fait, de pouvoir interpréter le même personnage qu'elle, jeune. C'était juste génial.
C'est vrai que t'as eu affaire à des scènes très dures, hein, dans le film, hein, il faut quand même le dire.
Oui. Mais après, j'étais entre de bonnes mains. Christian, c'est quelqu'un qui travaille uniquement dans la bienveillance. J'étais vraiment pas craintive. J'avais déjà travaillé avec lui, donc vraiment, j'y allais à l'aveugle. Je savais que ça, ces scènes-là, s'il y a bien un metteur en scène avec qui je peux accepter de les faire, c'est avec Christian.
Bon, c'est super. En tout cas, allez voir Une belle course aussi en VOD et DVD. En attendant, c'est Le prix du passage qui sort mercredi dans les salles. Alice, une actualité bien remplie. Une série pour la télévision, on a bien compris. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Ça sera l'occasion pour toi de revenir nous en parler. Exactement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Tu regrettes jamais?
Si je regarde derrière, je deviens fou.
Ça vient d'où tout ça? T'as pas fait de conneries quand même?
Mais non, j'ai pas fait de conneries.
Tu sais ce que tu risques si tu te prends?
Mais j'ai failli finir en tôle, connard!
Je t'ai dit, c'est dangereux.
Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est fini, c'est bon, on arrête?
J'ai pas dit ça, non.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
On va continuer à parler de Je te promets cette semaine avec effectivement de nouveaux épisodes qui vont arriver. On a les triplés qui sont avec nous. On va pouvoir évoquer effectivement avec ces triplés, ces deux épisodes. Mathilde Abdelkader, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Axel Naroditsky, bonjour Axel.
Et bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Dembo Camelo, que les fans d'ici tout commence connaissent bien dans le rôle de Souleyman. Bonjour mon cher Dembo.
Salut.
Comment ça va? Ça laisse des traces, hein, de s'inviter tous les soirs chez les Français comme ça, t'as vu. Alors on va commencer avec toi Mathilde, tu interprètes le rôle de Marie-Lou Berry, ado. L'année dernière t'étais venue nous parler de ce rôle, complètement tourné dans les Charentes. Alors je crois que vous avez la bonne place quand même tous les trois.
Ah bah oui, carrément. Non, bah on est trop contents de revenir à chaque fois. C'était une découverte pour moi cette région, et puis un gros kiff vraiment, de une chance de pouvoir y revenir. Et on est logé dans des super lieux et on tourne dans des super lieux, donc ouais, c'est que du plaisir de découvrir cette région via ce tournage.
Ça fait quoi Dembo de quitter la Méditerranée pour l'Atlantique?
Bah ça fait tout drôle, mais c'est tout aussi agréable parce que ici le climat il est aussi agréable, c'est cool.
T'as pu échanger avec Narcisse?
Non, jamais. En 3 ans, j'ai jamais pu échanger avec Narcisse.
Comment tu as approché ce rôle, quand on joue le rôle justement de quelqu'un, d'un personnage qui existe adulte, que tu dois le jouer ado, comment tu t'appréhendes?
C'est pas si compliqué que ça en soi, vu que par exemple pour le cas de Narcisse, c'est un acteur qui joue beaucoup avec les mains, qui est très expressif et qui a des petites mimiques que du coup j'essaye de reprendre. Et ouais, c'est des petits détails sur lesquels je m'attarde et auxquels je fais attention. Et du coup moi ça m'aide aussi dans mon jeu à alimenter mon jeu du coup, et à faire en sorte que ça se rapproche le plus possible du sien.
Mathilde, le fil rouge en quelque sorte de cette nouvelle saison concernant nos ados qu'on va retrouver dans les années 90, en pleine fiesta, hein, dans ces deux épisodes d'ailleurs qu'on va voir ce soir.
Ben oui, carrément. Au niveau des ados, on a vraiment deux axes, je trouve, dans cette saison 3. Il y a cette magnifique scène totalement Madeleine de Proust de la boum de lycée, où je pense que tous ceux qui avaient l'âge des personnages à la même époque, je pense qu'il y a plein de souvenirs qui vont être réactivés. Au niveau des looks, c'est chargé, préparez-vous, on s'est bien amusé. Et après, on arrive sur un axe qui avance un peu dans le temps, plus lourd, et qui on voit vraiment comment les ados gèrent l'après-Paul, le deuil, et ils le gèrent pas du tout de la même manière, et c'est évident pour personne. Donc voilà, ça c'est vraiment un axe hyper intéressant.
Dans la série, c'est plus sa fille justement qui l'appréhende, qui le vit mal. Est-ce que toi, c'est le même cas dans This Is Us? C'était vraiment justement le personnage de sa fille. Est-ce que là, dans la série française, c'est la même chose?
Ouais, complètement. Voilà, Maud, c'était vraiment celle qui se considérait le plus proche de son père, qui s'entendait un peu moins avec sa mère, donc c'était voilà. Et puis qui a une confiance en elle qui est pas au top top, et puis qui s'en veut à mort parce que elle a l'impression d'être la cause de la mort de son père. Ça doit être, j'ose même pas imaginer ce que ça doit être de porter ça sur soi. Donc pour Maud, c'est pas fastoche là, vraiment pas.
Alors, je crois, Axel, tu vas me dire si je me trompe, mon petit doigt m'aurait dit que tu ne veux plus entendre du tout Mano, la tribu de Nana, pendant au moins plusieurs années.
Voilà, parce que c'est vrai que deux jours, on a fait deux jours de boom.
En termes de look improbable, tu es aussi gâté apparemment dans cette série.
Oui, 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 aussi, ça y est, ça ressort tous les trucs, on peut plus te dire de secret en fait, c'est ça Ouais, non, la tribu de Dana, pendant la boom, deux jours non-stop, avec toute la figuration et tout. Non, en vrai, c'était des scènes très sympas à tourner, malgré tout, avec plein de figurants et toute une équipe qui était prête à tourner ce genre de scène, donc c'était cool, très bonne ambiance. En fait.
Alors dans cette saison 3, qui dit après Paul, du coup beaucoup moins de scènes avec Hugo Becker, c'est un regret dans cette saison 3, beaucoup moins de scènes avec lui ou pas?
Bah en fait c'est pas vraiment beaucoup moins de scènes avec Hugo parce que il est là sur la période de l'amour, on fait plein d'allers-retours en fait, hein. Il faut être accroché sur la timeline, mais on a vu Hugo quand même. Là le petit pincement au cœur et c'est comme ça, on a dû réduire les épisodes donc on est un peu moins présent tout court en fait, on a moins de Camille et moins d'Hugo, mais on espère très fort qu'il y ait une saison 4 et qu'on puisse revenir et continuer à travailler auprès de deux qui sont des comédiens qui nous font énormément progresser, et voilà, c'est un plaisir de travailler avec eux.
Nembo, toi, ça a été facile de pouvoir s'échapper un peu d'ici, de commencer quand on sait le rythme d'une série quotidienne et surtout tout ce que ça implique, même si Souleymane était un peu moins présent ces derniers mois, mais est-ce que ça laisse un peu de temps justement pour faire d'autres choses?
Ça laisse un peu de temps, mais moi au début je pensais pas que ça allait être aussi
Toi, t'as commencé dans Demain nous appartient en plus, hein. T'es un transfuge, hein.
Ouais, c'est un rythme complètement différent. Et au début, j'ai eu un peu de mal à m'adapter dans le sens où c'est beaucoup plus long. Les textes étaient beaucoup plus profonds, etc. Et du coup, ouais, j'ai eu quand même un petit temps d'adaptation. Mais ouais, quand même, ça va. J'ai le temps quand même de faire d'autres trucs à côté.
C'est le plus intello, un peu quand même, des trois, Matisse.
Exactement, c'est même un surdoué, je dirais.
Tes petites lunettes te vont à merveille.
Merci. Merci beaucoup. Et je les adore et je kiffe les porter. Et non, c'est kiffant de jouer ces personnages et même tous les aspects de Matisse dans sa personnalité, le fait qu'il soit sensible, touchant, toujours stressé, toujours à vouloir bien faire, hyper perspicace et hyper carré, on va dire, dans tout ce qu'il fait. Ouais, moi je trouve ça cool de jouer ça. En tout cas, c'est la première fois que j'ai un rôle comme ça à jouer.
Bon, c'est chouette. On va terminer par vos projets, à tous les trois. Je sais qu'on va te voir dans un très beau film au mois de mars qui s'appelle Sage Homme, Mathilde. Un film de Jennifer de Volder, aux côtés de Karine Viard, de Melvin Boomer. Il y a plein de beaux mondes dans ce film. Toi, tu vas faire de la musique, Axel. Tu vas nous en parler dans un instant. Mathilde, une belle expérience?
Sage Homme, bah carrément, c'était absolument génial. Et puis c'était très différent parce que le personnage que je jouais n'était plus une ado, c'était une jeune adulte. Donc c'est encore autre chose au niveau du caractère à porter. Et puis le personnage que j'avais était très pestouille. Et donc du coup ça changeait de mode aussi. C'est tout un autre caractère. Donc c'était génial à faire. Et voilà.
Axel, de la musique, un spectacle sur scène. Bref, tu vas pas chômer en 2023.
Ouais, non, j'ai des trucs de prévu, j'ai jamais aimé rien faire, donc j'ai toujours un truc à faire, je trouve toujours un truc à faire, et c'est vrai que là du coup ça s'est un peu tout enchaîné, et donc voilà, donc je sors un EP très prochainement, je pense pour le mois de mars, qui est prévu normalement début du mois de mars, qui s'appellera Échiquier, je vais le dire ici.
Tu nous l'enverras quand on le diffuse en avant-première.
Et exactement, pourquoi pas, voilà, avec grand plaisir. Et donc après, vous voyez, normalement ça partirait sur une comédie musicale avec cet EP. Et aussi, j'espère, un maximum de concerts. Voilà.
Et alors Dembo, évidemment, Souleymane, maintenant que Souleymane et Deva, c'est fini, il va falloir trouver un autre cœur à conquérir dans ce château.
Ouais, ou alors je peux tout simplement rester...
T'occuper de ton potager.
Voilà, tout simplement. C'est beaucoup plus facile à...
Gérer. Je vais terminer toutes tes phrases.
Non, pour le coup, c'est moins compliqué. Et ouais, non, après, j'attends de voir ce qui me prépare pour la suite. Et en tout cas, ça s'annonce avec plein de rebondissements.
Génial. Bon, je te promets, en tout cas, c'est ce soir, c'est la suite, c'est épisode 3 et 4. Merci Axel, merci Mathilde, merci Dembo d'avoir été avec nous tous les trois. Je vous dis à très bientôt, les amis.
Bon, alors, vous êtes prêts?
Ouais.
Première question, comment vous vous imaginez quand vous serez grand?
Bon anniversaire, vieux crouton.
Bon anniversaire, mon vieux.
Merci, mon frère, c'est super.
Je viens d'avoir 40 ans, là, et je l'entends bien, hein, le tic-tac de l'horloge.
Si on veut savoir, on n'a pas le choix, il faut y aller. Qui vient avec moi?
On fête les 10 ans, on vous rappelle, de Léo Mattei en ce moment, et pour fêter, eh bien, les 10 saisons de la série, on continue à en parler avec cette semaine, c'est Stommy Bugsy qui nous rejoint. Bonjour Stommy.
Bonjour, ça va?
Ça va très bien, merci d'être là, le commissaire Daguerre depuis l'année dernière que tu incarnes dans cette série, Léo Mattei, Brigade des mineurs, qui s'attache évidemment non seulement à faire de la prévention et qui raconte des histoires pas toujours gaies évidemment, mais voilà, c'est quelque chose de très important pour Jean-Luc Reichmann justement et toute son équipe d'essayer, voilà, de faire ouvrir en tout cas les yeux, le dialogue et aussi faire de la prévention grâce à cette série. C'est ça qui t'a plu en premier ou pas, Stommy?
Ce qui m'a plu en premier dans cette série, c'est d'abord Jean-Luc Reichmann. Le personnage est très attachant, très marrant, drôle, professionnel, super populaire, et bien sûr la prévention pour les enfants. Cette série, elle est tellement importante que quand il y a des gens maintenant qui ont des problèmes avec leurs enfants, ils me contactent sur mon Instagram et ils me demandent « Est-ce que Jean-Luc peut faire quelque chose? Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Je leur dis « Mais il faut appeler la police d'abord. » Et après, on verra si Léo Mattei peut faire quelque chose et le commissaire Daguerre. Mais d'abord, donc les gens, ils prennent vraiment à cœur, surtout, et cette série, elle traite de tous les sujets, la cybercriminalité... Les enfants qui se font menacer à l'école. Il y a tellement de sujets qu'on développe dans cette série. C'est une série qui est vraiment importante. Et je pense qu'il n'y avait pas de série comme ça avant en France. Traite sur les enfants et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au jour le jour. Et pas que les enfants, les ados, les pré-ados. Ça, c'est une série importante.
Ouais, il y a une série effectivement qui a duré beaucoup moins longtemps, qui a dû durer 2 saisons, qui s'appelait Brigade des mineurs, mais il y a longtemps sur la durée en tout cas. Léo Mattei aujourd'hui vraiment ce que j'appellerais une série un peu d'intérêt général. Alors toi, si t'es arrivé à la saison 9, t'avais vu un petit peu avant justement la série, est-ce que t'as pu voir quelques saisons auparavant quand t'es arrivé, ou justement t'as voulu arriver un peu neuf sur le plateau et mettre ta patte finalement dans le commissaire Daguerre?
Non, j'avais regardé, j'étais tombé sur la série quelques fois sur TF1, j'avais regardé. J'avais été surpris il y a quelques années par le jeu de Jean-Luc Reichmann, et je trouvais qu'il était vraiment charismatique et qu'il collait bien au cinéma, à la télévision. De toute manière, c'est pareil, une caméra, c'est une caméra. Je trouvais qu'il avait du charisme et je trouvais les épisodes bien ficelés. Quand Jean-Luc Reichmann m'a appelé pour tourner dans la série, j'ai encore regardé et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose à jouer là-dedans.
Tournage à Marseille? Sympa.
Oui, en plus je connaissais bien la ville. J'avais tourné aussi Gomez et Tavares dans cette ville, donc j'ai un petit amour secret avec Marseille. Ouais.
Ton rôle en quelques mots dans cette saison, est-ce qu'il va y avoir un fil rouge? Comment va évoluer ce commissaire? Est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses, en tout cas, même si on a vu déjà les 2 premiers épisodes la semaine dernière?
Bah, c'est un personnage qui est, je pense que dans les prochains épisodes, ils vont le développer un peu plus. Il est très mystérieux pour l'instant. On sait pas grand chose de lui. C'est ce que j'aime bien, parce que quand il arrive, il met une certaine pression. Et le challenge pour moi en tant qu'acteur dans cette série, c'est vraiment, sur le tournage, Jean-Luc Reichmann, c'est le boss. C'est sa série. C'est lui qu'elle a créé avec sa femme. Tant que les réalisateurs ne disent pas action, il est le patron. Et dès qu'on dit action, c'est moi qui deviens le patron. Le challenge, il s'est fait un claquement de doigts. Et c'est ça qui est vraiment trippant à faire sur cette série. Et après, vraiment, je sais que la série, elle est regardée par au moins à chaque fois au moins 6 millions de personnes. Et voilà, un impact très fort sur les parents, les enfants. Avec Internet, les parents sont déboussolés des fois. Ils savent pas comment régler certains problèmes. si un enfant se fait harceler à l'école ou si un enfant a une relation avec une personne adulte, ils savent pas. Il y a des adultes, ils savent même pas c'est quoi TikTok, ils savent même pas c'est quoi Instagram, Facebook ils connaissent. Il y a plein de gens qui se sont mis à Facebook, même mon père, des grands-mères, des grands-pères qui savent Facebook, mais le reste Instagram, TikTok, il y a tellement de choses, ils sont perdus sur le net. Et je pense que cette série peut leur amener un peu de lumière dans tout ce brouillard.
De réponse effectivement des fois aux questions que les parents peuvent se poser sur la prévention à effectuer, sur justement aussi les précautions à prendre concernant leurs enfants sur la toile, c'est le cas de le dire. Il y a aussi de la musique à venir. Stomy, raconte-nous un petit peu, parce que alors, évidemment Stomy Bugsy c'est avant tout quand même la musique. On t'a connu par là aussi.
Oh, la musique c'est mon premier amour, et là je suis en train de faire un album. Ça fait un an et demi que j'enregistre des titres, mais c'était encore dans un style auquel les gens ne sont pas préparés. Donc je vais attendre encore un petit peu. Je vais attendre quand je serai un peu plus vieux pour les sortir, ceux-là. Et là, je vais arriver avec de la musique ouais, bien fraîche, bien funky, bien... Ça va groover, comme on dit. Et non, je suis très content. Je bosse avec un réalisateur qui s'appelle ALPHA, qui est très connu dans le milieu du rap. Et voilà, j'ai trouvé ma bonne équipe. Donc je vais arriver, ça va être fort, ça va être lourd. En tout cas, je prends du plaisir, ça va être que de l'amour, et que de l'amour, de la bonne humeur et des bons messages. Voilà.
Ça va arriver quand ça?
Moi, je fonctionne beaucoup en termes d'albums. Quand je fais de la musique, d'abord, je visualise un album, un concept avec un titre, avec des titres qui se rejoignent.
Ça sera ton 8e, hein, si je m'abuse.
Ouais, je crois. Mais comme maintenant, l'industrie a changé. Les gens n'achètent plus les albums. Maintenant, avec les téléchargements, les plateformes, Spotify, Deezer, etc., les gens, ils écoutent les titres, un titre par-ci par-là. Donc, peut-être pas que je vais sortir un album tout de suite. D'abord, je vais sortir quelques titres et après l'album ensuite. Bah ouais. Mais je suis très content.
Et le premier titre, il devrait arriver pour quand alors? Avant l'été, tu penses, ou?
Peut-être. Ouais, peut-être.
Tu nous fais découvrir ça dès que ça arrive. Hein, on compte sur toi et on sera là, évidemment, pour les faire écouter à nos auditeurs.
Plaisir, avec grand plaisir.
Même on est connecté. En tout cas, Léo Mattei, c'est jeudi, c'est 21h10 sur TF1. On va suivre de nouveaux épisodes inédits avec toi, Stomy, notamment Lula Dubini, évidemment Jean-Luc Reichmann et toute une pléiade de guests prestigieux qui vont venir défiler jeudi devant vos yeux. Merci beaucoup.
Si vous aviez eu 30 ans de moins, je vous aurais liké de ouf.
Vous me prenez pour un dinosaure, c'est ça. Je le crois pas, ça, Chantal.
Tu peux m'embrasser parce que sinon ils vont croire que je suis mytho. Oui.
Inédit, Léo Mattei, nouvelle saison, jeudi prochain à 21h10 sur TF1.
Allez, spécial, une histoire d'amour, c'est dans une poignée de secondes. Surtout ne bougez pas, Alexis Michalik, Juliette Delacroix, Marie Cassoyer, Pauline Bression et Léontine Doncieux débarquent dans Chut, on écoute la télé.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre gros coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Une histoire d'amour, adaptation de la pièce éponyme d'Alexis Michalik. On a beaucoup de chance aujourd'hui, on va recevoir quasiment toute l'équipe. Et quel bonheur, Alexis, de t'avoir avec nous pour cette histoire d'amour, pas comme les autres, une sorte de love story des temps modernes. Merci d'être là, Alexis.
Bah, merci de me recevoir.
Et puis alors, on a une habituée de l'émission, une sociétaire, on l'aime tellement, depuis des années elle est là, toujours, elle répond toujours présente, Pauline Bression qui est avec nous, que évidemment les fans du Feu Plus Belle la Vie connaissent bien dans le rôle d'Emma qu'elle a incarné pendant 10 ans. Bonjour Pauline et merci d'être avec nous.
Avec grand plaisir, bonjour.
Et alors, on a également une des pépites du film, voilà, je le dis parce qu'elle nous a éblouis par sa partition, Léontine Doncieux, qui joue le rôle justement de la fille de Katia, qui joue Jeanne, et que d'ailleurs on recevra l'autre partie d'équipe, Juliette Delacroix et Marie Cassoyer tout à l'heure. Léontine, bonjour et merci d'être là aussi.
Bonjour, bah, je suis très contente d'être là.
Bon, alors franchement, j'ai eu la chance de voir le film il y a plusieurs mois maintenant, au Festival de l'Angoulême. Je me souviendrai longtemps de cette émotion en sortant de la salle, quand je dis que c'est un peu love story des temps modernes. Est-ce que ça te va, Alexis?
Ça me parle super bien, c'est vraiment ça. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de l'émotion, de l'humour, et puis effectivement des temps modernes, parce que c'est un couple de femmes, donc on est dans à notre époque, on va dire, on est ancré dans notre époque. Et puis, puis ça va être non seulement un couple de femmes, mais on va parler de, il y a plusieurs types d'amour qui vont être traversés. Il y a évidemment l'amour du couple, hein, comme Katia et Justine, mais aussi William et Claire, donc qu'incarne Pauline. Mais il y a aussi l'amour fraternel entre William et Katia, et il y a aussi l'amour filial entre Katia et sa fille Jeanne, et puis un amour naissant platonique familial entre William et Jeanne, donc l'oncle et sa nièce, qui vont apprendre à se connaître et à se découvrir. Mais ce qui compte, c'est que effectivement, ça parle d'amour.
Alors, il y a des bonnes scènes de colère, hein, Léontine, hein, quand même. Hein. T'as été chercher loin. Hein.
C'est vrai qu'il y a des scènes qui étaient un peu, oui, très fortes en émotion aussi. Donc voilà.
Et face à Alexis, il est impressionnant aussi.
Bah,
ça impressionne, non?
Oui, c'est sûr que c'est impressionnant, mais c'était quand même très bien parce que c'est vrai que la plupart de mes scènes sont avec lui.
On se connaissait bien. En fait, avec Léontine, on a joué le rôle au théâtre. Toute l'équipe a joué le rôle au théâtre, et donc Léontine, elle, c'est une des filles qui a incarné Jeanne, puisqu'elles sont nombreuses à l'avoir incarnée. Et donc, on avait fait quelques représentations ensemble, donc on se connaissait, donc il y avait déjà aussi ça qui était dédramatisé. Donc, et c'est, ça a été le cas avec tout le monde. Et c'était top. Mais ça, c'était une des scènes qu'on connaissait bien, comme c'est une adaptation. Moi, ce que j'adorais, c'était faire des nouvelles scènes, quoi. C'est comme si en écrivant le film, je donnais à chacun de leurs personnages une petite fenêtre sur leur vie qu'on n'avait pas encore explorée. Pour Katia, pour Justine, pour Jeanne. Tout d'un coup, je disais, bah là, on va faire une scène au supermarché, ou là, on va faire une scène au zoo, ou là, on va faire une scène. Et donc, en lisant chaque scène, ils découvraient une facette de leur personnage qu'ils avaient déjà incarné. Donc, c'était le travail principal, c'était comment arriver à faire en sorte qu'on ne puisse pas deviner que c'est une pièce de théâtre. Et donc, je me suis dit, comme on raconte 15 ans de vie, il faut notre richesse, ça va être les décors.
C'est ça qui est assez dingue, c'est que c'est hyper rythmé, on voit pas le temps passer pendant une heure et demie, vraiment. C'est vraiment chouette. Pauline, tu incarnes Claire, qui est une danseuse que William rencontre lors de l'union, en quelque sorte, de Katia et de Justine. Et c'est tout en poésie qu'on découvre ce personnage.
Oui, effectivement, c'est lors du mariage même de Katia et Justine que William et Claire se rencontrent. Ils vivent une histoire d'amour, mais qui est très... On voit juste des petits bouts.
Elle veut pas trop en dire, t'as vu?
Exactement, parce que tout à l'heure, je lui ai dit, attends, fais gaffe à ce que tu dévoiles. Et donc là, elle est en train de se dire, qu'est-ce que je peux dire sans qu'Alexis m'engueule?
Tout en poésie, disons que la question était assez vaste. Oui, oui, c'est très poétique et très joli comme histoire.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle, toi, quand déjà t'as commencé par la pièce?
Ah bah oui, on a fait la création de la pièce tous ensemble. Donc bien sûr que j'ai commencé par la pièce, et c'est un personnage qui est tout en douceur. En fait, on l'avait tellement déjà joué et expérimenté sur scène que là, c'était juste un bonheur de le refaire à l'écran, dans nos nouveaux décors. Enfin, c'était super.
Alors Alexis, parce que moi j'ai peur d'en dire de trop, pour ceux qui n'auraient jamais vu la pièce, évidemment, et pour ceux qui ne connaissent pas le film, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, là, comme début d'histoire, pour leur donner envie d'aller voir le film mercredi au cinéma?
C'est l'histoire de Katia et Justine qui se rencontrent et qui tombent amoureuses. Elles vont vivre une histoire d'amour passionnelle, tumultueuse, pendant 3 ans. Et puis un jour, Justine décide qu'elle a envie d'un enfant, et elle arrive à convaincre Katia de faire une insémination artificielle chacune, et de voir qui tombe enceinte. C'est Katia qui tombe enceinte alors qu'elle n'avait pas forcément envie d'un enfant, et au moment où elle tombe enceinte, Justine la quitte, et elle se retrouve donc toute seule avec cet enfant. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Et ben c'est ça qu'il va falloir découvrir, je pense, dans les salles, parce qu'évidemment il va se passer plein de choses insoupçonnées. Et voilà,
et on va découvrir William qui joue le frère justement de Katia, qui va se retrouver à devoir s'occuper, on va pas dire pourquoi ni comment, mais à devoir s'occuper de sa nièce. Et ça va pas être une mince affaire, parce qu'on va découvrir également qu'on retrouve un William qui était écrivain à succès, richissime, et qui d'un coup on le découvre des années plus tard, ou depuis 5 ans, tout a basculé, et on découvrira pourquoi. Évidemment, il a sombré dans l'alcoolisme, et pourquoi il n'a plus du tout envie d'écrire. Donc voilà, j'arrête là.
Non, c'est pas mal. C'est vrai qu'on peut dire que le film globalement gravite en deux parties. La première partie qui se passe avec toute la rencontre des filles, et puis la deuxième partie 12 ans plus tard, avec donc l'arrivée de Jeanne, cette jeune fille incarnée par Léontine, et qui va effectivement se retrouver à devoir cohabiter avec William, son oncle. Et on peut croire que vraiment rien ne les prédestine à s'entendre, et pourtant, parfois dans la vie, les choses se passent pas comme on les attend, et cette petite a a plus d'un tour dans son sac pour se faire accepter. Il va se passer encore une histoire d'amour, mais platonique cette fois, entre la nièce et son oncle.
Voilà, je dirais même qu'elle a plus d'un tour dans son journal. Voilà, ceux qui iront voir le film comprendront. Léontine, quel est ton meilleur souvenir de tournage ?
Moi je pense que mon meilleur souvenir, même si ça peut paraître bizarre, c'est la scène quand du journal, parce que j'avais eu tellement peur, je sais que j'appréhendais tellement ce moment-là.
C'est là qu'il fallait que tu piques une grosse colère.
Voilà, et j'appréhendais tellement ça, j'y ai pensé pendant des nuits avant, j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce qui va se passer, j'arrivais pas à dormir, et en fait quand je l'ai faite, je me suis rendu compte que c'était plus simple que ce que je l'avais espéré, parce que c'est un peu comme la pièce, et en plus on était plus seul, donc plus dans une intimité, mais c'était vraiment, donc c'était pour moi un très bon souvenir.
Pauline, pour toi, ta scène préférée ?
Je crois que c'est à 6h30 du matin.
Alex et Michalik, vous faisiez tourner à 6h30 du matin ?
Alors, jamais à part ce jour-là. À 6h30 du matin, on était au pied de Montmartre et j'avais la joie de danser pour lui, au pied de Montmartre à 6h30, où le soleil se levait, où les oiseaux venaient. Et ça, c'est quand même un excellent souvenir. Qui danse à Montmartre à 6h30 du matin avec de la musique ? C'était merveilleux.
Beau souvenir. Alexis, ta scène préférée ?
Moi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le mariage, c'est le mariage de Katia et Justine. On a tourné ça en Corse, dans un endroit absolument... mais magnifique, vraiment merveilleux. Et en fait, pour des raisons à la fois économiques et logistiques, on a tout fait sur une journée.
On va continuer à en parler de ce très beau film, Une histoire d'amour. C'est mercredi dans les salles. Juliette et Marika vont venir nous rejoindre dans un tout petit instant. On va écouter la bande-annonce. Merci beaucoup Alexis, merci Pauline, merci Léontine d'avoir été tous les trois avec nous pour commencer cette spéciale. Je vous souhaite en tout cas une très très belle réussite mercredi. On a tout fait pour soutenir ce film qu'on a vraiment adoré. Un vrai coup de cœur. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci, allez voir le film.
Tout de suite la bande-annonce et Marika et Juliette arrivent aussitôt après.
Ah pas trop tôt. Tiens, amène ça au camion.
Ouais, pourquoi t'es là?
Je suis obligé, c'est mon frère.
Elle est hétéro, hein.
Je sais.
Et maquée aussi. Tu vas la revoir?
Non, ça n'a pas de sens, hein.
Ok, si tu veux mourir seul, c'est ton droit.
Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de deux êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés.
Allez, on continue à parler de ce magnifique film, Une histoire d'amour. C'est notre gros, gros coup de cœur à découvrir cette semaine dans les salles. Et quelle chance de voir défiler toute l'équipe comme ça avec nous pendant cette émission. Et on va continuer avec Juliette Delacroix qui est avec nous, alias Katia. Bonjour Juliette.
Bonjour, ravie d'être avec vous.
Merci d'être là. Marika Soyer également qui est avec nous, qui joue le rôle de Justine. Bonjour Marika.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les deux. Vous nous avez fait passer par des émotions totalement hallucinantes quand on a regardé ce film. Je me souviendrai longtemps, c'était il y a quelques mois au festival d'Angoulême, un matin à 9h30. Et je vous garantis que vous nous avez réveillés, mais très très vite, avec cette histoire d'amour assez incroyable. Moi, je qualifie vraiment cette histoire un peu de love story moderne. On est vraiment sur une histoire, un coup de foudre. Comment vous avez réagi à l'écriture ? Est-ce que vous avez participé aussi, notamment à la pièce de théâtre ? Parce que, on le redit encore, mais c'est aussi tiré de la pièce de théâtre d'Alexis Michalik, et du même nom.
On a créé la pièce avec Alexis, avec Marika Soyer, Pauline Bression, Alexis et trois jeunes filles de l'époque. On l'a créé en fin 2019 et joué pour la toute première fois en 2020 à la Scala à Paris. Et bien sûr, on a participé à la création de cette pièce. Alexis avait évidemment écrit une histoire d'amour. Et après, il s'agit de chercher les personnages ensemble, de donner corps à cette histoire. Et du coup, on a créé tous main dans la main nos rôles respectifs avec lui, sous sa direction. Et après, il a été question du film un an et demi plus tard, après ce confinement fin 2020, où il nous annonce qu'il nous a en fait pris sur le film et on ne le savait pas. Et donc ça a été la continuité de cette incroyable histoire et de nos rôles, du coup, qu'on avait déjà joué une centaine de fois au théâtre.
C'est ça qui est assez dingue, c'est du coup vous avez joué les mêmes rôles au théâtre et au cinéma. Ça change quoi ?
On passe d'un décor imaginaire au théâtre où on s'imagine tout ce qui est censé nous entourer à un décor réel où d'un coup on ancre ses rôles dans le réel. Alors c'est quand même une pièce qui est très cinéma à la base, même si on est au théâtre et que c'est un code de jeu bien particulier. Donc il faut revenir plus près de soi et ramener ce rôle dans la réalité, dans la vie. Mais l'avantage de l'écriture d'Alexis, c'est qu'elle permet ça aussi. Il a une écriture très très moderne, très contemporaine, très populaire, comme disait Juliette. Et donc c'était une de nos peurs en tant qu'actrice, de dire il va falloir gommer des choses et retrouver et redécouvrir. Et en même temps, ça a été une force, parce que ce film, on avait très peu de temps pour le tourner. Le fait d'avoir eu la chance d'approfondir ses rôles au théâtre nous ont permis d'être efficaces sur un plateau de cinéma avec Alexis, qui savait très bien où il voulait aller.
Alors, il y avait un gros avantage quand même, c'est que du coup vous connaissiez déjà toutes les deux par cœur quasiment.
Oui, et c'est vrai que vu la partition qu'il y a joué ensemble, il y a des moments où on était contents de se connaître un peu avant, hein, parce qu'il y a quand même de l'intimité. Après, c'est toujours très pudique, et en tout cas, je trouve très élégant la part d'Alexis. Mais il a montré ce que c'était une histoire d'amour, et dans une histoire d'amour, eh ben, il y a des baisers, il y a des relations intimes, il y a toute cette fulgurance qui fait partie de l'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de s'aimer, il y a la passion, et la passion, ça passe aussi par l'intime. Et donc, c'est vrai que ça nous a aidé quand même de se connaître, parce que sur scène, on s'embrasse toutes les deux avec Marika déjà tous les soirs. Donc, on avait déjà ce contact-là. Et puis bah là, il a fallu un peu approfondir, donc découvrir aussi le contact de la peau, où on se réveille le matin l'une contre l'autre dans le film, où on a des moments d'intimité toutes les deux. Et je trouve que c'est... Moi, souvent, ça me dérange au cinéma. J'aime pas voir des scènes intimes quand elles sont pas justifiées. Et là, je trouve que c'est très intelligemment fait de la part d'Alexis, c'est que ça nous permet de comprendre toute cette passion qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à un drame. Donc, faut venir voir le film pour comprendre quel est-il. Mais non, c'était utile de se connaître avant. En effet, en tant que comédienne, ça c'était un cadeau, parce que c'est pas simple. Souvent, un tournage, on arrive et c'est allez, ça tourne. Bon, bah là, allez hop, vous vous embrassez. Et que ce soit un homme, une femme, deux hommes, peu importe. Ça n'a aucun impact différent que c'est l'inconnu. Et là, ça l'était pas. Donc ça, c'était chouette.
Marika, j'aimerais avoir ton ressenti sur Justine, vue par Marika.
Ah. Alors, Justine, vue par Marika, mon regard a beaucoup changé sur ce personnage.
Entre la pièce et le film ?
Non, entre le quand j'ai découvert que j'allais jouer ce rôle et quand je l'ai joué, que ce soit au théâtre ou au cinéma, mais elle me faisait très peur, Justine, parce que je trouve qu'elle fait des choix très très durs et de manière drastique. Elle est très entière, Justine. Elle réfléchit peu, elle agit, elle est dans l'action, elle est dans l'instinct, elle a une énergie folle et elle embarque cette Katia avec elle jusqu'à la perdition. Et je trouvais ses choix très durs. Mais c'est ce que je disais précédemment, bizarrement, ce rôle a été un peu annonciateur de la femme que je suis devenue. Et j'ai fait des choix très drastiques, très durs et brutaux. Et donc en fait, je crois que je me suis rendu compte à quel point c'était un miroir de moi. Ce personnage était un miroir de qui j'étais et des choses que je voulais pas voir en moi aussi. Donc c'est un rôle sur en tout cas la jeunesse du personnage qui me ressemble, parce qu'il s'inspire beaucoup des gens qui l'entourent, Alexis. Et c'est vrai que Justine, elle est très proche de l'énergie que j'ai dans la vie. Donc il y a quelque chose où je me sens très très en amour avec ce personnage. Et j'aimais moins les choix qu'elle fait par la suite et j'ai appris à la comprendre. Et c'est un personnage qui est très humain, qui nous ressemble beaucoup et qui ressemble à beaucoup d'entre nous, je pense.
Alors donc, Katia, vue par Juliette.
Bah, elle me touche énormément parce que c'est une fille, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai essayé de la travailler, c'est une fille qui a peur de l'amour, peur de la vie et qui décide finalement de lâcher prise, mais elle n'y va pas au début parce qu'elle a eu déjà trop de malheurs. Elle a perdu sa mère, elle a été battue par son père est pas, enfin elle le voit plus depuis qu'elle est toute jeune, elle a eu telle...
Elle sait pertinemment qu'elle peut hériter malheureusement de ce qui s'est passé pour sa mère aussi, donc il y a tout ça qui remonte.
Elle vit avec la peur permanente et à la fois elle crame la vie. C'est une nana, elle fait pas attention à elle, elle vit, elle mange, elle rit, elle baise. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'elle conçoit la vie. Et en fait, le jour où elle décide de lâcher prise, elle y va et avec beaucoup de fragilité, mais elle y va. Et je pense que chacun d'entre nous a cette part de fragilité. Un jour ou l'autre, on décide d'y aller. Parce que toute histoire d'amour commence par ça, c'est dire bah avec cette personne je vais y aller. Et du coup je la trouve très touchante en ça. Elle est très très fragile, elle décide de lâcher prise et le jour où elle lâche prise elle se fait avoir. Et c'est comment ne pas être en empathie avec un rôle comme ça abordé. Enfin moi c'était un cadeau et puis toutes ces souffrances je les ai aussi par résonance vécues dans ma vie personnelle, que ce soit voilà la maladie tout ça. J'ai la chance jusque là de ne pas avoir une mauvaise santé, mais le film est arrivé juste après que j'ai perdu mon papa de la même maladie, ma sœur. Enfin ça a été une résonance folle. Et Alexis ne le savait sans le savoir et au fur et à mesure de la création de la pièce du film, il a vu à quel point c'était presque un hommage moi aussi aux gens qui sont plus là. Et on a beaucoup de chance de pouvoir se dire on ressemble, on les comprend tellement. Et j'espère que ça nous arrivera dans notre vie d'en aborder d'autres où on pourra dire je vois tellement de quoi elle parle.
En tout cas, une histoire d'amour, c'est voilà, c'est des histoires qu'on aimerait voir beaucoup plus au cinéma, filmées de cette façon-là, avec beaucoup de pudeur. Une histoire d'amour entre deux femmes, qui est absolument magnifiquement interprétée. Vraiment, bravo les filles. C'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir mercredi au cinéma. Je voudrais remercier toute l'équipe d'être passée vraiment nous voir. Merci à Pauline, à Léontine, à Alexis, évidemment, qui était juste avant vous. Merci infiniment à toutes les deux, et je vous dis à très bientôt. Une histoire d'amour, c'est mercredi dans les salles. Tout de suite, un autre petit extrait. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Elle est pas là, l'autre maman ?
Non, elle avait un rendez-vous de boulot.
Je vais avoir notre bébé.
Maman, tu me fais un peu mal.
Je suis tellement fière de toi.
Votre cancer est revenu.
William, j'ai besoin que tu t'occupes de Jeanne.
Tu m'as bien regardé, je suis incapable de me faire une omelette.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, spéciale La plus belle pour aller danser, le film événement de Victoria Bedos, qui sera notre invité. Philippe Catherine, Firmine Richard, Brune Moulin, Hélène Caz et Lou Pinard seront également là pour en parler. On aura également le plaisir de parler du film Jour Sauvage avec Alain Fabien Delon et Redouane Arjan qui seront avec nous. On parlera également du retour de la doc Helvetto avec Thierry Benisti qui reviendra la semaine prochaine accompagné de Dunia Cossins. Et puis on parlera également de L'âme de fond avec Bruno Garcia et Pauline Bression qui elle aussi reviendra.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure. 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.